بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم شفع الإسلام. الحمد لله الله عز وجل donne la possibilité donc de reprendre ce programme concernant les grands signes de Qiyama. On rappelle qu'avant le mois béni de Ramadan, quelques mois avant, donc on avait commencé à aborder donc les grands signes de Qiyama après avoir traité des petits signes pendant plusieurs mois. Et on avait commencé par un rappel sur les différents petits signes de Qiyama qui vont précéder la venue du premier grand signe, qui est donc la venue de l'imam Mehdi. Et on avait vu dans un premier temps quelle est l'origine, quelle est la lignée de l'imam al-Mahdi. Et on avait vu que l'imam Mahdi est alawi, c'est-à-dire les descendants du prophète alayhi salat wa salam, du côté de Fatima radiallahu anha et du côté de Hazrat Hassan radiallahu anhu. Et on avait vu l'opinion de certains savants musulmans sur le fait que l'imam Mahdi descende de Al-Hassan radiallahu anhu. Et on avait vu également d'une manière assez concise quelle est la aqidah, quelle est la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'ah. Et quand on parle de Ahl Sunnah wal Jama'ah, c'est par opposition aux Shia et aux Rawafid. Quelle est la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'ah concernant la venue de l'imam Mehdi? Et on a pu faire le parallèle avec le imam Mehdi qu'attendent les musulmans qui appartiennent à la communauté des Shia et des Rawafid. On a vu qu'il y a une grande différence dans les deux aqidah qui concernent pourtant un personnage qui doit être identique, mais dans la perception de ce personnage, de sa mission, dans sa nature, il y a énormément de différences. Et on a vu également qu'à notre époque, parfois, il devient un peu difficile de croire en ce genre de « miracle », en guillemets. Les gens pensent que c'est utopique de croire qu'il y a un sauveur qui va venir. C'est vrai qu'on vit dans une situation, dans une époque où il y a des fois on se dit que ben vraiment, qu'est-ce qui va nous tirer de ce genre de problème quand on voit le nombre d'injustices qu'il y a, principalement où l'islam est visé dans tous les domaines de la vie. Il y a des moments où on se dit que, subhanallah, même les dirigeants ne bougent pas, même les responsables ne bougent pas, on voit autant de pression. Ben, il y a des fois où on finit par se dire que ben, il n'y a que le sauveur qui peut apporter la guidée, qui peut apporter la lumière à cette umma. Bon, c'est une réaction qui est parfois justifiée, hein, qui est légitime. Mais on avait dit qu'on ne doit pas attendre la venue d'un sauveur et entre-temps laisser les choses faire, ne pas essayer d'apporter de nos compétences pour améliorer la situation des musulmans. Donc c'est pour cela que certaines personnes ne veulent plus trop croire en ce genre de, entre guillemets, de mythe. Hein, ils disent que c'est utopique, c'est se retirer un peu de la réalité des faits que de baser toutes nos espérances là-dessus. Mais on comprend bien que le musulman n'attend pas la venue de l'imam Mehdi. Hein. Notre but n'est pas d'attendre la venue de l'imam Mehdi. Il n'a jamais été dit que quand il y aura des fitnas, des sources de tuapitude, des sources de problèmes à la fin des temps, le musulman se doit de rechercher le Mehdi. La lune, on recherche pour le mois de Ramadan. D'accord? La lune, on recherche pour la venue de l'Eid. Mais l'imam Mehdi, on n'a pas besoin de le chercher. On n'a pas besoin de faire des recherches, on n'a pas besoin d'essayer de trouver les signes de Mehdi chez différentes personnes, dans différentes communauté pour voir est-ce que ça s'adapte, oui ou non. Ça, c'est quelque chose d'universel qu'Allah Azza wa Jal va envoyer à un moment précis. Et lorsque la personne élue par Allah Azza wa Jal verra sa mission commencer, ben là, l'humanité tout entière va le reconnaître comme étant le sauveur, comme étant l'imam Mehdi. Mais c'est vraiment quand Allah subhanahu wa ta'ala le voudra. Donc, on répète bien, il ne faut pas qu'à chaque fois que nous rencontrons des problèmes ou que nous voyons dans l'actualité qu'il y a eu telle chose, qu'il y a eu telle oppression, qu'il y a eu telle injustice. Et on va voir qu'un des signes vraiment de la venue de l'imam Mehdi, c'est quand il y aura un niveau de zulm, d'oppression, ben ce ne sera plus du zulm individuel. C'est comme si que l'oppression, l'injustice se généralisera. Très souvent, nous constatons de l'injustice à titre personnel avec telle personne. Voilà un musulman qui se fait agresser, il y a un crime islamophobe, ou il y a des insultes, ce genre de choses. Alors que par rapport à d'autres communautés, hein, le moindre froncement de sourcils, ça peut être considéré comme un acte de guerre. Et là, on est passible du pénal, on est passible de telle peine de prison, on peut être qualifié de je ne sais quel terme dont on ne citera pas, d'accord. Et donc, on se rend compte que pour le musulman qui est agressé, qui est insulté, et on a vu récemment, on passe du, pas du coq à l'âne, mais on s'étale un petit peu. Vous voyez les apéros Facebook qu'il y a eu ces derniers temps, où il y a des gens hein, qui se réunissent et qui affirment haut et fort hein, devant les caméras de télé et qu'on a pu voir sur Internet, et disent carrément « je suis islamophobe, je déteste l'islam ». Il y a bien eu des gens qui l'ont dit, il y a eu des dames, moi, subhanallah, ceux qui sont sur Facebook, surtout ils l'ont vu, mais c'est des propos extrêmement choquants et c'est des gens qui parlent avec un sentiment d'impunité totale, ils sont persuadés, ils le savent, et c'est une réalité, que quelle que soit la nature de leurs propos contre l'islam, ils savent qu'ils ne sont pas touchables. Il n'y a rien qui peut être, ils ne peuvent pas être traînés en justice, ou il n'y a rien, il n'y a pas de plainte non plus qui sera portée, et même s'il y a des plaintes, mais il n'y aura strictement aucune suite. Là encore, il y avait sur Internet, sur le site de TF1, une femme émiratie, c'est pas une française, hein. On ne parle pas d'une musulmane française qui porte pas de là. Il y a une Imaratiya, une femme qui vient des pays arabes, des Émirats arabes unis, qui était donc à Paris. Elle portait le voile intégral et elle a rencontré une femme dans un magasin qui lui a dit qu'il faut enlever ça. Ici, on ne porte pas ça. Hein, ça date d'il y a quelques temps. Il n'y avait pas de loi, c'était avant que ça passe auprès du Conseil des sages, etc. etc. Vous voyez, on va pas faire de politique. Et donc, pour éviter les conflits, cette femme arabe, émiratie, elle a enlevé. C'est une touriste, elle était de passage en France. Elle l'a enlevé. Et puis, quand la française est partie, elle l'a remis. D'accord. Mais il se trouve qu'elle va recroiser cette même personne dans un autre endroit. Et là, cette française, hein, elle va être tellement éprise d'un sentiment de haine qu'elle va se mettre, elle s'est mise à gifler cette dame, à griffer, à frapper, à l'agresser physiquement. Vous voyez. Et là, la police est intervenue, dit qu'elle encourt 3 ans de prison. Alors moi, j'aimerais bien qu'on suive cet événement à la loupe et voir si vraiment, en réalité, cette personne sera punie, oui ou non. Alors, attention, là, on ne parle pas du musulman du quartier. Là, quand même, ils sont en train de toucher, hein, elle a touché un gros morceau, elle a touché à une musulmane du Moyen-Orient, des pays très riches, qui ont une certaine influence. Hein, il ne faut pas oublier que, il y a certaines choses, voyez. Et donc, bref, imaginez la même scène. Imaginez la même scène qui se serait produite face à une personne d'une autre religion dont on ne citera pas, d'une autre religion qui était habillée avec sa tenue vestimentaire, sa tenue religieuse. Imaginez le tollé, imaginez les plaintes, imaginez les associations contre le racisme, les descentes de différentes personnes dans la rue, etc., etc. Mais quand il s'agit de porter atteinte à l'islam, à un musulman ou à une musulmane, nous voyons bien qu'il n'y a strictement aucune réaction. Et c'est là une réalité. C'est une réalité, mais c'est une chose qui nous a été annoncée bien avant, subhanallah, à l'époque du prophète, on nous a annoncé que viendra une époque où le musulman qui voudra pratiquer sa religion, ça deviendra aussi difficile qu'une personne qui prend une braise et qui tient dans sa main. À partir du moment où quelqu'un veut vraiment être religieux, de pratiquer sa religion dans son intégralité, le comportement de cette personne sera qualifié, si on est gentil, d'excessif, ou alors de fondamentaliste, d'intégriste, jusqu'à arriver au stade de terroriste. Donc, on avait dit aussi que il y a des gens qui sont un peu suspicieux face à la notion de Mehdi. Ils ont parfois raison, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de faux Mehdi depuis l'époque, depuis les premiers temps, jusqu'à en 1980, avec le dernier Mehdi officiel, hein, enregistré au catalogue des faux Mehdi, hein, qui s'est manifesté donc en Arabie Saoudite et qui a pris des personnes en otage dans le Haram Sharif à Makkatul Mukarrama. Alors qu'on va voir comment va se dérouler le bay'a d'Imam Mehdi. Oui, ça se déroulera à Makkah, mais pas avec des gens dans les minarets qui vont prendre en otage des gens et fusiller, hors de question. Hein, ce sera un bay'a forcé. Imam Mehdi sera, on l'amènera de force entre le Rukne Yamani et le Maqam Ibrahim, et là, on l'obligera à accepter le bay'a des gens. Rien à voir avec ces sentinelles dans les minarets qui prenaient donc en otage des gens. Mais apparemment, depuis 1979, je n'ai plus eu le vent de nouveaux faux Mehdi. Wallahu a'lam. Alors, est-ce qu'à une certaine époque, des gens ont pu croire, excusez-moi, mais il faut bien dire des prénoms qui gênent, est-ce que des gens ont bien pu croire que Oussama Ben Laden était le nouveau Mehdi? Vous savez, il suffit parfois de vouloir suivre une personne et d'idéaliser la personne et d'essayer de coller les textes sur la personne pour qu'on se fixe un objectif, pour qu'on soit rassuré et les gens se sont dit que oui, ben, c'est peut-être lui le Mehdi, etc., etc. Et donc, il faut bien le scénario. En aucun cas. En nous voyons bien, nous avons bien vu que déjà, il faut analyser la lignée. Si la personne est Fatimi de Al-Hassan radiallahu anhu, là, il y a une possibilité. Et si en plus son père s'appelle Mohammed, son père s'appelle Ahmed, donc là, il y a... Abdullah, excusez-moi, son père s'appelle Abdullah, là encore, il y a plus de chances, d'accord? Donc, depuis, il faut, en parenthèse également, il faut savoir que depuis cette époque, hein, le gouvernement saoudien a plus ou moins empêché, a plus ou moins freiné l'élan des A'imma, freiner l'élan des A'imma concernant les sujets abordés le jour de Jumu'ah sur les minbars. Hein. Ils ont le droit d'aborder les sujets qu'ils veulent, ils ont le droit de parler des grands signes de Qiyama, mais éviter au maximum de parler de Imam Mehdi. Pour pas que cela sollicite des vocations, pour pas qu'il y ait des personnes qui s'ennuient, qui ne savent pas quoi faire, et tout d'un coup, ils entendent le sifa d'Imam Mehdi, quel sera leur rôle, parce qu'évidemment, ce sera, si quelqu'un recherche l'honneur, qu'il postule pour être Mehdi. Si quelqu'un recherche l'honneur, qu'il postule pour être Mehdi, parce que ce sera l'homme le plus important depuis le prophète, alayhi salatu wassalam. C'est vrai, bon, on ne va pas comparer avec les khalifas, les khulafas rachidines et Omar ibn Abdel Aziz ou autre chose. Non, c'est un autre niveau. Mais concernant le alam, concernant au niveau de l'humanité même, quelqu'un qui a été annoncé depuis l'époque de Isa alayhi salam, et c'est un aqidah pour lequel la totalité de l'humanité doit croire. C'est-à-dire les gens qui sont venus avant le prophète alayhi salatu wassalam, mais cela les concerne également parce que c'est quelque chose qui va clore la race humaine, c'est quelque chose qui va clore la vie même sur la terre. Après Imam Mehdi, il y a Dajjal, il y a Ajuj, etc. Et après ça, il n'y aura plus de vie. Il y aura la destruction totale. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'histoire de l'humanité. On avait vu également, est-ce que les Nasara, est-ce que les chrétiens croient en la venue d'Imam Mehdi? Bon, on avait fait quelques recherches et on avait vu qu'ils croient en la venue de l'Antéchrist. Ils croient en la venue de l'Antéchrist, donc Al-Masih al-Dajjal, et ils croient, les chrétiens, également au retour de Isa alayhi salam, au retour donc de Jésus. Mais dans le retour de Isa alayhi salam chez les Nasara et le retour de Isa alayhi salam chez les musulmans, il y a énormément de différences. Mais, wallahu a'lam, on n'a pas réellement trouvé de versets ou de signes qui parlent de la venue de Imam Mehdi dans les Masadir, dans les livres des chrétiens. Concernant les Yahouds, qu'est-ce qu'on a trouvé? Ben, ils croient en la venue d'un sauveur également, mais très certainement ce sauveur, c'est quelqu'un qui doit venir également dans l'histoire de l'islam, mais pas en tant que sauveur, hein, bien au contraire. Et on avait vu le huitième point. Quelles étaient les prévisions de Nostradamus, pour réviser ses cours, quelles étaient les prévisions, décidément, de Nostradamus quant à la venue de Mehdi? On a vu que certaines prédictions, certaines prophéties, on n'utilise pas le mot, mais certaines prophéties de Nostradamus étaient conformes aux explications du prophète alayhi salatu wassalam, et on avait expliqué que, un, c'est quelqu'un qui travaille avec les shayatines, comme tous les sorciers, comme tous les devins, et deuxièmement, son grand-père lui avait remis des textes qui avaient été substitués, volés aux musulmans dans les grandes bibliothèques, hein, et donc il a eu donc accès à certains textes extrêmement importants, certains hadiths de base que nous avons, nous, en notre possession, à notre époque. Et dernier point, c'était le neuvième point concernant Imam Mehdi. On avait fait ça le 1er juin, le 1er juin 2010, donc c'était avant le mois de Ramadan. Et la dernière fois, on avait parlé de l'après-Ramadan, donc on n'avait pas parlé d'Imam Mehdi. Alors, la situation du monde, quelle sera la situation de l'humanité à la venue d'Imam Mehdi? Et entre autres, quelles sont les conditions qui doivent être absolument réunies pour que Imam Mehdi fasse son apparition? Et on avait dit que la première condition, premièrement, c'est que la totalité des petits signes de Qiyama se soit réalisée. Et on avait dit que parmi les petits signes de Qiyama qui ne se sont pas encore réalisés, il y a la péninsule arabe qui doit un jour redevenir verdoyante avec des fleuves qui coulent. D'accord? Et on avait expliqué également, ce n'est pas les cultures sous serre qu'on voit dans le désert saoudien qui est due à l'irrigation, ça c'est un travail du ministère de la culture, ça n'a aucun rapport avec les signes de la fin des temps, mais réellement, la péninsule arabe un jour redeviendra verdoyante. On avait vu qu'il y a certains scientifiques qui annoncent la chute éventuelle un jour d'une météorite qui risque de bouleverser le climat sur la Terre. On pourrait peut-être faire une comparaison avec ce qui s'était passé à l'époque des dinosaures, ce que certains scientifiques expliquent comme raison principale de la disparition des dinosaures, hein, une météorite tombée sur la Terre qui a bouleversé le climat. On peut penser à un éventuel inversement des pôles. Wallahu a'lam, on n'est pas là pour trouver la raison, on est là pour croire. On est là pour apporter iman sur les deux seuls petits signes qu'on n'a pas encore vus. Sinon, tous les petits signes annoncés par le prophète alayhi salatu wassalam, même les signes qui peuvent paraître un peu surnaturels, ces petits signes-là se sont réalisés. Et le deuxième petit signe qui ne s'est pas encore réalisé, donc c'est cette fameuse montagne d'or qui doit émerger un jour de l'Euphrate. Et là, on a vu également certains savants sont d'avis que c'est le pétrole, mais on a bien vu que le prophète, والسلام, lorsqu'il a expliqué les termes, avec les mots du hadith qui ont été utilisés, prouve bien que cela ne peut pas être quelque chose de liquide, ça doit être absolument quelque chose qui va être pris par les gens, et que les gens par millions, par milliers, ils vont se battre et ils vont s'entretuer pour s'en emparer. Donc ça a été annoncé par le prophète. Maintenant, comment cela va se passer? Est-ce que le fleuve, donc l'Euphrate, son cours va changer ou alors il va s'assécher? Là aussi, on n'est pas là pour chercher des explications. Il ne faut pas trop chercher. De manière générale, on doit bien comprendre que lorsqu'on parle du aqida, lorsqu'on parle des croyances, on n'a pas le droit de faire des ijtihad. Ijtihad, c'est quoi? On n'a pas le droit de faire des suppositions. On n'a pas le droit d'essayer d'apporter une touche personnelle ou de donner des interprétations qui sont en décalage avec les textes. Parce que les aqidas, c'est les croyances. Et la croyance d'un Hanafi, d'un Shafi'i, d'un Maliki, d'un Hanbali est exactement la même. On peut avoir des divergences dans le fiqh, dans la manière de faire la salat, dire amin fort, oui ou non, lever les mains, oui ou non. Ça, il n'y a aucun problème. Pour toutes les aqwals, pour toutes les façons de pratiquer, il y a des dalils, il y a des hadiths. Mais dans le aqidah, dans le dogme, dans les croyances, on ne peut se permettre de diverger. Et la meilleure façon, de ne pas diverger, c'est quoi? C'est de rester fidèle au texte et de ne pas trop laisser aller notre imagination. D'accord? Il faut rester neutre, objectif, face au texte. Alors, deuxième description de l'humanité avant la venue de Mahdi, c'est une condition pour que Mahdi arrive, c'est que l'humanité connaîtra quantité de troubles, quantité de fitna. Et les fitna, ce sont principalement les péchés. Et ça reprend tous les petits ashrat sa'a, tous les petits signes de qiyama qu'on avait vus, consommation d'alcool, hein, l'adultère, l'homosexualité et ce genre de péché qui deviendra quelque chose de général. Maintenant, on ne reprochera pas à une personne d'être ivrogne ou de boire de l'alcool en quantité. On ne peut même pas reprocher à un homme d'avoir des relations extra-conjugales parce qu'on appelle le mot adultère et le mot fornication n'existent pas sur le plan légal. Hein, si on dit à une personne que oui, ce jeune, il va forniquer, on va se moquer de vous. Il va avoir une aventure. C'est une aventure, hein, c'est Koh-Lanta, c'est ce que vous voulez. Hein, si vous voulez. Mais en aucun cas le terme fornication et le terme adultère n'est plus employé dans le vocabulaire français. Non, ça veut dire qu'il y a une généralisation, une banalisation du zina, une banalisation de la consommation d'alcool et même l'homosexualité qui est un péché condamné par l'islam, même si on est dans un pays de droit où il y a des gens qui peuvent proclamer leur droit à l'homosexualité et qu'on n'est pas en droit de dire quoi que ce soit. Mais dans notre croyance, à nous sommes persuadés, nous devons rester fermes que cela reste un péché. De même que chez les chrétiens, chez les catholiques, c'est une des choses sur lesquelles ils restent fermes et je ne sais pas combien de temps ils vont tenir, mais quand même, il y a une certaine fermeté face à ce genre de péché. Et ce genre de péché va se généraliser. Et également, si on analyse les faits d'actualité, hein, nous voyons qu'avant le Qiyamah, le monde connaîtra des périodes de troubles. Et on avait donné quelques exemples, hein, quand il y avait quelques petits conflits au Proche-Orient, on avait vu qu'il suffit parfois d'une étincelle pour déclencher une troisième guerre mondiale. Il suffit d'une étincelle, il suffit d'un discours mal placé, il suffit de quelques faits, hein, qui ne doivent pas avoir lieu dans certains endroits particuliers pour qu'il y ait un embrasement dans cette région du monde. Et si cette région du monde s'embrase, ben c'est la totalité des continents qui vont s'investir. Et là déjà, on voit quels sont les pays qui sont pro, quels sont les pays qui sont contre, quels sont les pays qui sont plus ou moins neutres, mais qui sont de telles tendances ou de telles tendances. Donc, il suffit de pas grand-chose. Mais avant la fin des temps, l'humanité connaîtra un chaos comme certainement il n'en a jamais connu. Hada. Également, troisième point, et c'était le dernier point qu'on avait abordé le 1er juin 2010, on avait vu que, ça reprend ce qu'on a dit en introduction, que l'oppression, le volme, deviendra quelque chose de général. Kama muliat volman wajura, que Imam Mehdi rapportera la justice, alors que ce dunya sera rempli d'injustices et de choses qui sont incohérentes. Et cette injustice touchera principalement les musulmans, à un tel point que le musulman ne trouvera plus aucun endroit où trouver refuge. Et nous voyons aujourd'hui que même dans certains pays musulmans, la situation n'est pas simple. Dans certains pays musulmans, on n'a même pas le droit de garder la barbe. Dans certains pays musulmans, une personne, moi j'ai eu des témoignages de personnes pendant le hajj et tout, ils disent que pendant que dans leur pays, si un jeune va à la salat al-fajj, la police locale, ou je ne sais pas comment on appelle ça, les polices secrètes ou les renseignements de leur pays musulman là-bas, ils vont suivre cette personne, ils vont enquêter, ils vont ficher cette personne. Pourquoi un jeune se rend à la salat al-fajj? Est-ce qu'il n'a pas des tendances extrémistes ou autre chose, etc. Donc la pratique même de la religion dans certains pays musulmans parfois devient problématique. N'en parlons plus de certains pays qui sont plus que laïcs, qui empêchent, voire découragent les femmes même à se couvrir les cheveux. Le châle même dans certains pays musulmans est extrêmement mal perçu. Également, à la fin des temps, le retour des génocides. Alors là, c'est un grand terme. C'est lorsque Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, lorsqu'il parle d'Imam Mehdi, il dit « Daka yakhruju fi akhiri zaman idha qala ar-rajulu Allah, Allah, qutil » Rawahu al-Hakim. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, dit que Imam Mehdi, c'est celui qui viendra à cette époque, donc à la fin des temps, lorsque quelqu'un osera dire « Allah, Allah, qutil », cette personne sera tuée. Cette personne sera exécutée. Donc, impossibilité totale pour le musulman à la fin des temps de pratiquer vraiment sa religion et même d'affirmer son identité de musulman. Et là, on avait parlé tout à l'heure des actes islamophobes et cette injustice, nous le constatons donc sur le plan individuel, mais également sur le plan international, sur le plan politique, nous voyons bien qu'il y a des choses qui sont totalement incohérentes. Il y a des pays, il y a des puissances, il y a des groupes qui peuvent yani, faire ce qu'ils veulent et ils savent qu'ils ne seront jamais punis, alors que dans le musulman, la moindre erreur sera immédiatement sanctionnée. Prenez un petit exemple et regardez comment cette mondialisation, elle est terrible. Regardez comment les gens se laissent facilement manipuler par la presse. Il y a eu récemment sur un site internet une nouvelle qui disait qu'une jeune fille aurait été violée à Makkatul Mukarrama dans un hôtel. Vous avez peut-être suivi ce fait divers sur un site internet. Alors, la question qu'on peut se poser, déjà, oui, mais comment là-bas et tout. Les questions qu'on peut se poser, à New York, tous les 3 ou 4 secondes, il y a une femme qui se fait violer. À New York, à Philadelphie, à Chicago, tous les 3 ou 4 secondes, il y a une femme qui se fait violer. Regardez la semaine dernière ce qui s'est passé à La Réunion. Fait divers, un père de famille, apparemment, il prostituait sa fille de 12 ans. D'accord ? Il amenait ses amis et des clients dans sa maison, je ne sais pas où ça, et sa fille était prostituée. Mais qu'est-ce qui est plus grave ? D'accord ? Quand ce genre d'événement, même parfois, vous voyez dans l'actualité, une dame qui travaillait comme femme de ménage en Arabie ou dans tel pays des Émirats, elle a été frappée, elle a dû retourner chez elle. Mais quand ils vont saisir un cas par an, un cas sur 10 000, ils vont extrapoler. Et qu'on ne peut pas vérifier l'authenticité des sources. Et deuxièmement, ils vont mettre les projecteurs à fond dessus dans le but de donner une image négative de la religion. Et là, comme on disait dans un discours récemment, si nous agissons comme Homer Simpson, que nous passons notre temps devant la télé à manger des... Peut-être qu'on ne mange pas des donuts, je ne sais pas qu'est-ce qu'on mange, et à croire tout ce que les médias nous disent, ce qui est le cas du citoyen lambda, on finit réellement par croire que vraiment, dans les pays musulmans où la charia est pratiquée, il y a ce genre d'exaction, il y a ce genre d'injustice. Mais tout ça, c'est un travail, c'est un montage qui est manigancé donc par les médias. Donc l'injustice sera généralisée à tous les niveaux. Maintenant, où ça nous intéresse, où on s'était arrêté la dernière fois, le quatrième point, quatrième condition
pour la venue d'Imam Mehdi, situation du monde avant la venue d'Imam Mehdi, hadith d'Abi Saïd al-Khudri radiallahu anhu, lorsqu'il explique, le sallallahu alayhi wa sallam explique comment sera l'humanité avant la venue d'Imam Mehdi, il dit que ce sera une période où il y aura énormément de zalazil, il y aura énormément de tremblements de terre. Et les tremblements de terre font également partie des petits signes de Qiyamah. Maintenant, sur le plan scientifique, à quoi correspond un tremblement de terre? On parle de tectonique des plaques. Donc, selon les scientifiques, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose même d'essentiel pour l'équilibre de la planète. Je suis d'accord. Mais à la fin des temps, avant la venue d'Imam Mehdi, ces tremblements de terre, ces séismes seront inexplicables parce qu'ils seront mustamir. Ils seront perpétuels. Ils vont être de manière continue. Ce sera sans arrêt des tremblements de terre dans toutes les régions du monde. Tremblements de terre auxquels les scientifiques ne pourront apporter de réponse ni d'explication. Regardez, lorsqu'on parle de dérèglement climatique, les écologistes, ils se sont saisis de cet événement, de la fonte des glaciers, etc., pour dire, pour tirer le signal d'alarme, voilà, il y a tel problème, c'est par rapport à notre mode de vie, il faut revenir vers le vert, le green, etc. Mais en même temps, nous avons un petit mouvement qui est en train de monter, c'est les éco-géniques, ça n'existe pas ça, les éco-sceptiques, des gens qui disent que ce n'est pas vrai du tout, que ça n'a aucun rapport avec notre mode de vie, ni notre mode de consommation, c'est un cycle naturel, donc même pour le dérèglement climatique, il y a des divergences. Il y a des scientifiques qui ont une vision des choses, il y a d'autres, et ce sont des scientifiques également, qui ont une autre approche des choses. On ne peut pas interpréter. Mais pareil, avant la fin des temps, il y aura donc ce dérèglement même par rapport à la tectonique des plaques avec une quantité de séismes, de tremblements de terre auxquels les hommes ne pourront apporter d'explication. Et ça nous fait bien comprendre que tout cela, tout ce qui nous entoure, c'est la création d'Allah. Que ce soit les êtres animés, que les êtres inanimés, nous appartenons à Allah Azza wa Jal, et c'est Allah qui donne l'ordre à chaque créature d'agir comme Allah Ta'ala l'a décidé. D'ailleurs, à la fin des temps, lorsqu'il y aura le Zalzalat al-Sa'a, lorsque le dunya sera détruit, lorsque sera la fin du monde, la vraie fin du monde, Allah Ta'ala du Coran, يوم يدين تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها, c'est-à-dire que la terre livrera ses secrets. L'histoire, les Moufassins disent que tous les péchés qui ont été accomplis sur tel endroit de la terre, il y aura le zikra, il y aura, c'est comme si c'était une mémoire qui était remplie, qui était entassée, et là, comme si on appuie sur play, et là, tous les péchés qui ont été accomplis sur la surface de la terre, la terre livrera les secrets des péchés des gens qui ont accompli. Et là, c'est par ordre d'Allah, bi'anna rabbaka awhala. Donc la terre parlera. La terre livrera ses secrets, lorsqu'Allah Azza wa Jal lui ordonnera. Donc la terre, le dunya, le socle sur lequel nous vivons également appartient à Allah. Et c'est Allah qui décide qu'un jour, ce socle terrestre connaîtra de tels troubles. Et ce sera avant la venue de Imam Mehdi. Maintenant, une petite parenthèse. On voyait le tafsir récemment de « Wallayli idha yarsha ». Et il y a dans le verset « فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ سُطِحَتْ » Et c'est surtout là-dessus qu'on voudrait s'attarder. « وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ سُطِحَتْ » Et les Mufassirin disent que certains savants sont d'avis que les montagnes contribue à l'équilibre de la terre. Wallahu alam, ce n'est pas un hadith, ce n'est pas l'opinion de grands mufassirs, mais certains savants sont d'avis que la disposition des montagnes à travers les cinq continents contribue à l'équilibre de la terre. Maintenant regardez, analysez le trouble que le monde connaît par le réchauffement climatique. Quand on dit réchauffement climatique, on dit fonte des glaciers et on dit montée des eaux. Il y a des petites îles qui sont en train d'être inondées, je crois, aux Maldives ou je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est juste parce que la température en été grimpe de 1 degré ou de 2 degrés, je crois, tous les 10 ans. Maintenant, imaginez, quand Allah Ta'ala ordonne à cette terre de trembler, et donc il y aura un impact général, mais quelles seront les conséquences ? Wallahu a'lam. Alors, cinquième point, donc ça, on a vu les tremblements de terre. Bon, ça, c'est un signe avant la venue de Mamehdi. Et ce sera des séismes ininterrompus. Cinquième condition avant la venue de Mamehdi, et ça c'est quelque chose de beaucoup plus politique, Mautu Khalifa, le décès d'un dirigeant musulman. Hein, qui ça? De quel pays? De quelle région? À quelle époque? Quel genre de mulk? Est-ce que ce sera un khilafat? Est-ce que ce sera un mulk, un royaume? Wallahu alam, il n'y a pas de précision. Hadith de Qatada, radiallahu anhu, yakunu ikhtilafun inda mawti khalifa. Il y aura une divergence, il y aura un chaos dans le monde musulman après le décès d'un dirigeant. Rawahu Abdul Razzaq. Et comment? Wallahu alam. Et également, il est dit qu'on parle d'instabilité chez les musulmans. Yub'athu ala ikhtilafi minan nas. Ça prouve bien que Yub'athu, Imam Mehdi, sera envoyé alors que les gens seront en pleine divergence. Et certains savants sont d'avis que la divergence, hein, ces troubles, concernera le Moyen-Orient. Non, il faut aller étape par étape, d'accord? Le trouble concernera principalement le Moyen-Orient. Et dans certaines sources, mais là, bon, on s'éloigne un peu des hadiths, hein, c'est l'opinion de certains savants, on va revenir là-dessus. Elle dit que ce sera une époque où, lorsque les musulmans se rendront au pèlerinage, se rendront au hajj, il n'y aura pas de dirigeant officiel. Il n'y aura pas de amir, il n'y aura pas de khalifa ou de guide pour la jamaat, pour l'ensemble des musulmans pendant ce hajj. Alors, et certains savants également sont d'avis que lorsqu'on parle d'une situation instable chez les musulmans, ce sera à cause des divergences entre les musulmans dans la pratique de la religion. Et ça, c'est quelque chose de réel. On ne dit pas que ce signe-là, mot khalifa, c'est la divergence des musulmans dans la religion. Non, parce que réellement, il y aura un calife, il y aura un dirigeant qui va mourir, et après son décès, il y aura vraiment un chaos total. Mais il ne faut pas oublier que le prophète nous avait annoncé que les Yahoud se sont divisés en 71 groupes, que les Nasara se sont divisés en 72 groupes, et que cette communauté se divisera, elle, en 73 groupes. C'est-à-dire que les musulmans vont avoir plus de divergences de leur religion que les Yahoud et les Nasara. Alors parfois on entend des gens dire que oui, il y a fait la divergence, des gens ils pensent comme ça, comme ça. C'est quelque chose qui a été annoncé par le prophète Mohammed, Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que beaucoup de gens iront vers ces divergences, et là notre prophète a dit que parmi ces 73 groupes qui vont diverger, il y aura une seule, yani, il y aura un seul groupe qui sera sauvé. Ma ana alayhi wa ashabi. Ceux qui vont suivre mon modèle et ceux qui vont suivre mes sahaba, ceux qui vont suivre mes compagnons. Et cela rejoint le hadith lorsque le prophète alayhi salatu wasalam a dit que, ce hadith qu'on a déjà répété beaucoup de fois, je vous ai laissé deux choses. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada. Deux choses. Accrochez-vous à ces deux choses et jamais l'an c'est vraiment pour le futur, la négation du futur. Iqbal, l'an avec mudari'a man mansoub, ça passe bac arabe ça, d'accord? L'an tadillu abada, jamais vous ne serez égaré. Et quand on dit jamais, c'est quoi? C'est que quelles que soient les fitna, quelle que soit l'époque, quelles que soient les sources de turpitude, quelles que soient les oppressions qu'il y aura de l'humanité, un musulman qui restera accroché au Coran, un musulman qui restera accroché aux paroles de son prophète, alayhi salatu wassalam, ne pourra jamais être égaré. Et quand on dit rester accroché, c'est ne pas aller vers beaucoup d'interprétations. De nos jours, nous voyons beaucoup de choses. Wallahu musta'an. Nous voyons beaucoup de gens, des gens même de la religion, hein, qui vont essayer d'apporter leur touche personnelle. Et qu'on va organiser des ibadats de la sorte pour nous permettre de nous raccrocher à notre religion. Mais qu'ils prennent leurs responsabilités devant Allah. Moi, je dis clairement, si on ose apporter une innovation, si j'ose penser que en orientant la jamaat d'une telle manière, en formant tel groupe, en donnant une autre orientation, je vais permettre aux musulmans de mieux pratiquer leur religion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que implicitement, je remets en cause la méthode prophétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme le prophète l'a enseigné aux musulmans, c'était valable pour les sahaba tabi'in, atba'i tabi'in, peut-être pour le Daoula Umayya, les Umayyad, peut-être les Abbasides, mais arrivé à un certain moment, on ne peut plus se rapprocher d'Allah uniquement par l'héritage prophétique. Donc, je me dois d'apporter des choses. Et on se justifie, et on se justifie, et on trouve des raisons. Et on va voir dans le monde indien tel apport, on va voir dans le continent africain tel apport. On va voir dans les pays arabes aussi. Il y a des bidats partout, tel apport. On va voir chez nos frères malaisiens, indonésiens, tel apport. On va voir chez les musulmans canadiens, américains, les russes. Chacun apporte un peu de ses traditions, de ses innovations. Et chacun essaie de cogiter, essaie de réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire pour ma religion? Oui, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon dîme? Oui, mais tout en restant dans le modèle prophétique. C'est bien ça lorsque le prophète me dit que accrochez-vous au Coran et accrochez-vous au modèle prophétique, à ce que le prophète alayhi salatu wasalam nous a enseigné, et là, vous serez dans le droit chemin. C'est-à-dire que le musulman qui pratiquait sa religion à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam, c'est-à-dire les sahaba, et le musulman qui pratique sa religion à notre époque, si on analyse les 24 heures, je ne parle pas des péchés, ça on aura... ne sera jamais à leur niveau, mais si on parle juste des pratiques religieuses, on ne doit normalement pas trouver de différence. Maintenant, si vous faites un tour du monde en une journée, vous voyez que comme on pratique dans tel continent, comme on pratique dans tel continent, je ne parle pas d'Irtilaf de l'Madhab, ça c'est pas grave ça. Toutes les divergences, ça fait, il y a des sources. Il y a des sources qui sont authentiques, la plupart des cas, donc ils sont dans le droit chemin. D'accord? Mais les ajouts, Wallahu musta'an. Et c'est ça qui éloigne le musulman de l'authenticité de sa religion. Wallahu musta'an. Donc, petite parenthèse, donc, avant la venue du Mahdi, il y aura la mort d'un calife important. De quel pays, de quelle région, Wallahu alam. Mais cela aura lieu et cela donnera naissance à un chaos, à une période d'instabilité totale dans le monde musulman. Et même pendant le Hajj, il y aura beaucoup de troubles, et on verra ça par la suite. Sixième point, il y aura hadith de Thauban, radiyallahu anhu, yaqtatilu 'inda kanzikum thalatha. Il y aura trois personnes qui vont s'entretuer pour s'emparer du trésor de la Kaaba. Kulluhum ibnu Khalifa. Alors là, on a des précisions. On aime bien la société d'Ama son nom. Oui, ben là, on a des précisions. On a des noms. Ils seront tous des fils de Khalif, d'émir, des fils de dirigeants. D'accord? Mais personne ne pourra faire main basse sur le trésor de la Kaaba. Et ça, c'est une autre histoire. Après, il y aura une armée avec des étendards de couleur noire qui va apparaître. Mais ça, on verra par la suite. Hadith rapporté par Ibn Majah. Donc, des personnes qui vont essayer d'attaquer la Kaaba, de s'emparer d'un éventuel trésor de la Kaaba. Mais ils ne pourront pas. Dans certaines sources, c'est dit également qu'il y aura des gens qui vont se diriger vers la Kaaba. Est-ce que cela concerne la même chose ou c'est une autre circonstance? Parce que le hadith qui parle de personnes qui vont s'orienter, qui vont prendre la direction d'Imam Mehdi lorsqu'il va devenir officiellement Imam Mehdi, eux, ils seront engloutis par la terre. Et dans d'autres sources également, on voit des gens qui vont se diriger vers la Kaaba pour s'emparer du trésor, mais Allah Ta'ala ordonnera à la terre de les engloutir. Alors les muhaddithins, ils expliquent qu'est-ce qu'on entend, on finira avec ça, qu'est-ce qu'on entend par Kanzul Kaaba, par le trésor de la Kaaba. Ibn Kathir, rahimahullah, est d'avis qu'on parle des trésors, de tous les hadaya, de tous les dons que les Arabes, hein, ils faisaient, donc les dons qu'ils faisaient à l'attention de la Kaaba. Donc, il parle d'un éventuel trésor, d'une éventuelle quantité d'or ou de pierres précieuses, je ne sais quoi, que les Arabes, depuis le Jahiliya, avait l'habitude de donner, de laisser au niveau de la Kaaba. Wallahu a'lam. Il y a d'autres opinions. Bon, ça c'est des gens un peu plus contemporains, hein. Donc c'est l'auteur du livre que nous utilisons parfois. Il est d'avis que, bon, mais c'est assez réducteur, hein. Wallahu a'lam. Il dit que c'est tout simplement la porte de la Kaaba. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si on peut. C'est son opinion, hein, ça n'engage que lui. Il dit qu'effectivement, dans le monde, si on analyse, le plus gros objet en or du monde, c'est la porte de la Kaaba. Mais ça c'est vrai. D'accord? La porte de la Kaaba qui pèse 280 kg, 3 mètres 6 de hauteur, de longueur, pour 1 mètre 68, donc en mètre carré, je ne sais pas combien ça fait, mais en tout cas, ça fait 280 kg d'or pur. Maintenant, si on calcule avec le gramme de l'or, il est à je ne sais pas combien, 40 euros, je ne sais pas combien, ça fait pas mal d'argent. D'accord? Bon, c'est son opinion, mais bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui vont sortir de loin juste pour s'emparer de ça? Wallahu a'lam. Et puis, il y a des opinions qui sont un peu plus chawaz, qui ne tiennent pas le coup vraiment. Il y en a qui disent que c'est le pétrole. Hein. On va tout ramener vers le pétrole. Lorsqu'on parlait du trésor de la montagne d'or sous l'Euphrate, il y en a qui pensaient que c'était le pétrole. Et là, quand on parle du trésor de la Kaaba, on parle de Daska. Pourquoi préciser Makkah, hein, si on parle de Daska? Sachant que dans le Hijaz, dans la péninsule, dans la région du Hijaz, c'est-à-dire Makkah, Madina, Jeddah, il n'y a pas de pétrole. Pour avoir du pétrole, il faut aller du côté de Najd, du côté de Riyad, du côté des mamantriques autour de Riyad. Là, il y a du pétrole. Mais Makkah, Madina, Jeddah, quand vous faites en bus, vous n'avez jamais vu de puits de pétrole. Je dis ça, jamais vu de puits de pétrole, non. Il n'y a pas de puits de pétrole dans le Hijaz. Hein, ça commence au niveau de Riyad. Donc, en aucun cas, on peut dire que c'est... Et puis, il y a eu d'autres commentaires encore, d'autres savants. Mais là, on s'éloigne de plus en plus. Lorsqu'il parle du trésor de la Kaaba, il parle de la gouvernance, hein, de commander Makkah, de commander... Mais ça, on va très loin. Donc, mais réellement, il y aura des gens qui vont essayer de s'entretuer pour s'emparer du trésor de la Kaaba. De quelle manière, Wallahu a'lam. Mais ces gens-là seront immédiatement stoppés et arrêtés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, on terminera avec ça. Ça, c'est un événement qui ne se trouve pas dans les Sihah. Je n'ai pas trouvé ni de Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah ou Al-Nasa'i. Mais ça a été rapporté par d'autres savants. Mais à prendre avec des pincettes, à prendre avec des pincettes, on le cite parce que dans une assemblée, on parle essentiellement de ça. Certains savants sont également d'avis, se prononcent là-dessus. Mais bon, tant qu'on n'a pas de source authentique, on ne peut pas vraiment dire que ça va se passer comme ça. Wallahu a'lam. Ils disent que avant l'arrivée d'Imam Mahdi, les gens seront donc au hajj, au pèlerinage. D'accord ? Bon, il ne faut peut-être pas dire ça avant que les groupes partent, ils vont avoir peur. Ils vont aller donc au hajj. Et à cette époque, et là ça rejoint un truc qu'on a déjà dit, à cette époque, il n'y aura pas de dirigeants musulmans pour le hajj. Alors que les gens seront à Mina, les gens seront le 8e de l'Hijja à Mina, il y aura donc des échanges de coups, il y aura donc un fitna, une source de troubles, et il y aura des tueries à Mina. Et il dit bien que hatta tasil al-aqabata daman, il y aura le sang qui sera propagé jusqu'aux endroits où on tape Shaytan. Fayafza'una ila khayrihi, et les gens ils sauront plus quoi faire. Ils vont se dire que dans le hajj de cet endroit, il y a de telles choses qui se passent. Les gens ils vont rechercher vraiment un guide. Les gens, c'est une époque où les gens seront perdus. Il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas de imam. Et donc là, فَيَأْتُونَهُ وَهُوَ مُلْسِقُ وَهُوَ مُلْسِقُ وَجِهِ إِلَى الْكَعْبَةِ يَبْكِي. Ils vont trouver cette personne, Imam Mahdi, qui n'est pas encore Imam Mahdi officiellement. Et Imam Mahdi sera près de la Kaaba, hein, le visage collé à la Kaaba en train de pleurer. كأني أنظر إليه وإلى دموعه. Le hadith dit que c'est comme si que je le vois et je le vois pleurer donc avec ses larmes. فيقولون هلما فلنبايعك. Les gens vont dire que viens maintenant qu'on porte serment d'allégeance sur toi, qu'on fasse le bay'a. Et là, Imam Mahdi va dire que attention, combien de promesses vous avez rompues, combien de sang vous avez fait couler, etc., etc. Mais les gens l'obligeront à accepter le bay'a et ils vont faire bay'a de force. فإنه المهدي في الأرض والمهدي في السماء. C'est lui le Mahdi dans le dunya, dans cette terre, et c'est lui le Mahdi dans les cieux. Akhrajahu Na'im ibn Hamad. Bon, Na'im, c'est un hadith, donc, mais Na'im ne fait pas partie des grands rawi al-hadith. Mais ça rejoint un petit peu ce qu'on avait parlé en termes de troubles que cette Ummah connaîtra avant la fin des temps. Donc, ce qu'il nous reste à voir, bon, ça c'était quelques points qu'on devait aborder, hein, la situation du monde avant la venue du Mahdi, pour être bien sûr qu'il faut qu'il y ait un tel degré de fitna, de chaos dans la Ummah, pour que vraiment Imam Mahdi apparaisse. Ce n'est pas au moindre conflit, à la moindre loi votée, au moindre souci qu'on va se dire qu'il n'y a que Imam Mahdi qui pourra nous délivrer. Bon, on pourrait aborder un dernier point. D'où viendra Imam Mahdi, de quel endroit? Alors là aussi, et c'est ça qu'on voit la beauté de notre dîn, la perfection de notre dîn, quand on ne sait pas, on ne parle pas. Quand on n'a pas de dalil, quand on n'a pas de preuve, on n'a pas à réfléchir, on n'a pas à se prononcer. Alors ce qui est sûr, c'est qu'Imam Mahdi, à un moment donné, il sera à Madina Munawwara. Et ensuite, il va s'enfuir, il va aller vers Makkah Mukarrama. Ça, on verra peut-être la prochaine fois, dans des commentaires d'Abu Daoud, dit que Imam Mahdi sera tellement connu à Madina qu'il voudra, justement, il ne voudra pas que les gens, hein, le considèrent comme Mahdi et fassent bay'a. Donc, il va partir à Makkah avec l'espoir que là-bas, les gens, hein, ne le reconnaissent pas. Et on sait également à quel endroit le bay'a aura lieu. Le serment d'allégeance aura lieu entre le Rukni Yamani et le Maqami Ibrahim. À cet endroit précis aura lieu le bay'a. Maintenant, où va naître Imam Mahdi, quel endroit il va habiter, ça, les hadiths ne précisent pas. Et comme les hadiths ne précisent pas, nous devons juste avoir iman yaqin sur les infos, sur les khabars que le prophète ﷺ nous a laissés, qu'il habitera à Madina Munawwara et qu'il se rendra à Makkah et que le bay'a aura lieu, inshallah, à Makkah al-Mukarramah. Et en restant neutre et objectif en pratiquant notre din comme Allah l'a révélé, comme le prophète alayhi salatu wasalam l'a montré, c'est de cette manière qu'on restera dans le droit chemin. Alors, la prochaine fois, inshallah, on va voir les signes qui nous permettront de reconnaître Imam Mehdi. Hein, on a vu les faux Mehdi, mais là, on va voir que différents points, que c'est quelqu'un qui ne recherche pas le khilafa, c'est quelqu'un dont les gens ne vont pas parler, que ce sera lui le Mehdi. On va voir également qu'il y aura l'union, tout le monde sera d'accord pour que ce soit lui Mehdi. Il n'y aura pas de divergence. Et c'est très rare ça dans notre communauté, dans notre oumma, il n'y a pas de divergence. Mais là, les gens seront unanimes et les gens viendront de différents endroits du monde pour faire Bay'a. Et les grands, les gens saints, les pieux vont se déplacer du Cham de différentes régions pour faire Bay'a. Donc ça, on verra la prochaine fois. C'est un point extrêmement important. C'est un point clé parce que c'est le début de la mission. C'est comme quand on parle du prophète, le Nubuwwat, quand est-ce qu'il a eu Iqra, il est devenu prophète. Bon, c'est pas la même chose, hein, mais quand on parle d'Imam Mehdi, ben, quand les gens vont le reconnaître et les gens vont porter Bay'a, ben, c'est là que sa mission va commencer et on va voir la prochaine fois. Donc, comment les gens vont le reconnaître et deuxième point, comment se déroulera le Bay'a et immédiatement après le Bay'a, quelles seront les guerres qui vont avoir lieu, quels seront les affrontements et comment Allah va lui donner Nusrat en permanence. Et le dernier point, je pense que ça on peut terminer en deux séances. Quelle sera la mission d'Imam Mehdi sur la terre en 5 ou 6 points? Quels seront les objectifs que l'Imam Mehdi devra atteindre? Qu'est-ce qu'il va faire pour redonner la izzat à cette ummat et passer le relais à Isa alayhi salam? Qu'Allah nous accède notre tawfiq de comprendre donc ces quelques paroles, de mettre en pratique, de propager donc à nos mères et à nos sœurs. Donc également, alhamdulillah, on a de très bonnes nouvelles donc pour la réunion en termes de reconnaissance par rapport au monde musulman. Vous savez que cette année, pour le Hajj, hein, on a eu cette chance, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, de pouvoir accueillir donc, des personnes qui vont délivrer les visas à nos pèlerins ici même à la Réunion. Jusqu'à maintenant, vous savez que c'est pour ça qu'on n'avait même pas fait programme ce soir, on était hyper débordés avec tous ces dossiers, mais alhamdulillah, la facilité, tous les ans, pour avoir les visas de Hajj, il faut aller à Maurice, il faut aller à Nairobi ou en Afrique du Sud. Cette année, par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, hein, il y a eu différentes démarches qui ont été faites par différentes personnes et par la grâce d'Allah Azza wa Jal, nous avons des diplomates saoudiens qui vont venir d'ici la fin de semaine ou au début de la semaine prochaine et qui vont permettre à chaque réunionnais de planifier le Hajj, de préparer le Hajj en toute tranquillité. Il n'y aura pas le stress, qu'est-ce qu'on aura visa, est-ce qu'ils vont accepter là-bas, comment ça va se faire. Alhamdulillah, ça se fera ici à Saint-Denis, pas trop loin, à Belle-Pierre ou je ne sais pas quel endroit. Mais ça, c'est une grande avancée, c'est beaucoup de facilité qu'Allah Ta'ala accorde. On peut dire un fait de loin qu'Allah subhanahu wa ta'ala permette à chaque personne qui a fait le niyat de faire le Hajj que ces gens-là peuvent faire le Hajj en toute tranquillité malgré les péripéties qu'il y a. Hein, c'est déplorable quand même qu'il y a beaucoup de pèlerins, de musulmans. Il y a beaucoup de réunionnais qui ont l'intention de faire le Hajj mais qui ne peuvent pas y aller. Qui ne peuvent pas y aller parce qu'il n'y a pas assez de groupes. Il y a des groupes qui ne font pas, ou il y a des groupes qui ont fermé, ils ont atteint leur quota, ils ne peuvent pas faire mieux que ça. Donc c'est dommage. On fait de loin également que d'année en année, ça s'améliore pour que chaque musulman puisse accomplir ce pilier d'islam. On fait droit également que, Inch'Allah, à un moment donné, on arrive à un niveau où tous les musulmans peuvent faire le Hajj. Que si je veux aller au Hajj avec mon épouse, je n'ai pas besoin d'avoir 10 000 euros dans mon compte en banque. C'est qui peut débloquer 10 000 euros d'un coup? C'est difficile. D'accord? Que les prix deviennent raisonnables, que les responsables, ceux qui organisent, ils réfléchissent un peu également. Qu'il y a différents niveaux de vie. Hein, il y a les musulmans qui ont les moyens, il y en a qui n'ont pas beaucoup de moyens. Que même le SMICA, même celui qui a peu de revenus, mais qui a envie de connaître c'est quoi la joie de Arafat, même s'il n'a pas beaucoup de moyens, même s'il est prêt à avoir des hôtels un peu loin, des conditions un peu moins avantageuses, mais que le musulman de conditions modestes également puisse accomplir le Hajj. Ça serait vraiment quelque chose d'énorme de pouvoir démocratiser le Hajj. Qu'Allah nous accepte les efforts de chacun, donne la possibilité de comprendre ce qu'on a dit, renforce notre iman, et que chaque personne donc puisse pratiquer sa religion comme elle l'a été révélée. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah.